Je vous invite à tourner vos iPhones, si vous en avez, vers un texte de Philippiens, qui est un peu la trame de plusieurs séries de messages, en fait, hein, parce que je ne pourrais pas tout donner aujourd'hui, qui est Philippiens 3, verset 10. Je crois qu'en ce moment, on a les Jeux Olympiques où chacun cherche, enfin, chaque athlète qui est là-bas, il cherche à gagner, hein. Il cherche pas à perdre. Vous croyez qu'il cherche à perdre? Sinon, je pense qu'il ne serait pas, hein. Il cherche à gagner. Ouais. Par contre, tout le monde ne veut pas gagner, hein. Et donc, quel est leur. Pourquoi ils sont là-bas? Ils ont un but. Le but, c'est. C'est quoi? De gagner. Non, c'est pour voir si vous suivez, parce que. Non, les athlètes. Je reste pour les athlètes, puis après, je viens chez nous. C'est de partir. Ah oui, alors, il y a des sportifs qui disent de participer. Alors, peut-être qu'eux, ils veulent participer, mais ceux qui sont les sponsors, je ne sais pas si ça leur suffit. Hein. Donc, ils sont là-bas pour un but, c'est de gagner. Hein? Pardon? Avoir une médaille. Voilà, c'est encore plus simple. Avoir une médaille. Est-ce que vous voulez une médaille en tant que chrétien? David, il sourit là. Vous voulez des médailles? Amen. Des récompenses, voilà. Voilà, des réponses, des récompenses. Et quel était le but de Paul? Eh bien, c'est écrit dans Philippiens 3, verset 10. Mon but, donc mon objectif, et de le connaître. Connaître qui? Lui, c'est Christ. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, ça c'est moins agréable, mais il accepte ça aussi, en devenant conforme à Jésus, dans quoi? Dans sa mort. Hein? Conforme dans sa mort. C'est étonnant, hein? Mais voilà, c'est la théologie de Paul, conforme dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Et oui, ce si possible, mais quand même un petit doute, hein? Un petit doute au fait qu'il y a une collaboration de notre part, hein, en tant que chrétien. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où c'est pas simpliste. C'est simple à comprendre. C'est pas simple à faire, hein, parce que notre chair réagit, parce que notre attitude humaine résiste à cet objectif. Mais si nous sommes déterminés, comme les athlètes en ce moment sont déterminés à gagner, eh bien, nous allons y arriver. Vous le croyez? Pourquoi? Parce que la grâce est suffisante, nous l'avons chanté encore, pour nous aider, hein. Mais il faut une détermination de notre part pour que le Seigneur puisse faire le reste. Et ça, c'est un peu toute l'expérience de Paul. Et puis aussi, ce que vous avez vu, pour ceux qui étaient là les dimanches précédents, du témoignage de Louis Palau. Alors, j'aimerais, à partir de là, rebondir pour vous reparler de ces trois analogies que je voudrais vous comprendre. Alors, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit analogie, c'est pas très compréhensible. Vous voyez ce que ça veut dire analogie? Tout le monde comprend le mot analogie. C'est vrai que c'est pas un mot simple, mais en fait, dans la vie courante, vous l'utilisez tout le temps, hein. Vous dites, je suis intelligent comme un tel, je suis bête comme un tel, je suis. À chaque fois que vous utilisez le comme, vous faites une analogie, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire des analogies, puisque vous pouvez pas dire quelque chose sans vous référer à quelque chose pour que la personne vous comprenne. Hein? Okay? Donc le comme, en fait, c'est l'analogie. Donc c'est quelque chose que vous utilisez tout le temps. Donc l'analogie est un principe de la parabole. Hein? Jésus parlait tout le temps en parabole. Parabole, c'est des analogies. Tout simplement parce que pour expliquer des choses spirituelles qu'on n'a pas encore vues, vous voyez, si on veut vous expliquer comment c'est dans tel pays, vous n'êtes jamais allé. Bon, aujourd'hui, bien sûr, il y a des photos, mais sans parler des photos, on va vous parler de quelque chose que vous connaissez. Vous dites, c'est comme, ça, c'est comme ceci, c'est comme cela, pour vous aider à comprendre, à communiquer bien le message. Voilà, donc les analogies. Donc la première analogie qu'on a vue, c'est celui de Romains 6, 7 et 8. Hein. C'est la parabole de la fameuse fusée. Hein. Parce que la fusée, on peut maintenant comprendre, tous comprendre comment ça marche et qu'on peut voir hein, ceux qui sont en courroux à chaque fois, ils sortent pour voir le démarrage de la fusée Ariane. Donc, on peut parler d'une chose quotidienne pour expliquer un principe spirituel de Romains 6, Romains 7 et Romains 8 qui montre qu'il faut se libérer hein, de quelque chose. Donc, c'est une parabole, une analogie qui nous permet de savoir, pour progresser, pour devenir un chrétien utile, hein, une charge utile pour le cas de la fusée, un chrétien utile pour le cas de l'analogie spirituelle. Pour devenir utile, il faut que nous soyons libérés de tout un tas de poids qui sont sur nous, hein, qui sont les poids de la gravitation de la mort, de la loi du péché, et de la mort, et aussi de cette oppression, hein, l'oppression de la chair, l'oppression du monde, l'oppression démoniaque, dont nous sommes sous lesquels nous sommes, si nous ne sommes pas satellisés, si nous ne sommes pas dans la grâce avec le Seigneur. Donc cette parabole nous aide à comprendre comment lâcher les choses. Quand dans la semaine j'ai lu ce passage de Louis Palau, qui je vous rappelle c'est le poulain de Billy Graham, hein, c'est l'équivalent de Billy Graham en Amérique du Sud, qui a à peu près le même parcours à tout point de vue, hein. Ça fait 40 ans qu'il est dans le ministère d'évangélisation de puissance. Eh bien, quand j'ai lu cet article, il illustrait tout à fait cette parabole, mais d'un point de vue plutôt positif, c'est-à-dire non pas de lâcher, mais de prendre des décisions. Et son témoignage était de dire les trois plus importantes décisions de ma vie. Hein. C'est quand même un chrétien utile. On peut le prendre comme exemple de quelqu'un qu'on peut, disons, admirer au sens de faire comme lui pour devenir quelqu'un d'utile. Et ce qu'il dit, c'est que, à la fin, ces trois décisions très importantes sont très importantes et déterminent le destin d'un être humain. Bon, dans la bouche de Louis Palau, je pense que ça prend un poids particulier et on peut l'écouter. Hein, puisqu'il s'adresse à des foules, à des millions de personnes, et que son parcours personnel que Dieu a permis dans ces trois décisions lui permettent d'affirmer cela avec une grande autorité, donc détermine le destin. Donc vous voyez, nous on est sur une parabole qui détermine notre destin, si nous la comprenons bien. Et c'est pour ça que je suis allé vers une autre parabole qui dit la même chose, hein. Donc ici, devenir un chrétien utile, le but. Une autre parabole qui est plutôt d'aspect positif, qui est l'aspect de la parabole de la croissance. Voilà. La croissance biologique. Hein, biologique, qui est aussi la croissance spirituelle, qui est pour devenir un chrétien mature. Et la troisième parabole, mais qui sera un peu plus longue à expliquer, je ne vais que l'effleurer aujourd'hui, c'est le modèle, c'est une sorte de modèle pour connaître, pour mieux connaître Dieu. Donc le but, c'est de connaître Dieu, c'est le but de Philippiens, pour devenir équilibré, donc un chrétien équilibré, en harmonie avec le corps de Christ, pour vraiment être, bien sûr, utile à l'œuvre du Seigneur. Alors, pour introduire la parabole de la croissance, on va lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 28, c'est Jésus lui-même qui prend cette parabole, cette analogie, si vous voulez. Donc, Matthieu 6, verset 1. On va lire à partir de... On va lire un peu plus loin, comme ça, ça vous donnera le contexte. Hein. C'est en fait dans le sermon sur la montagne, où Jésus parle des inquiétudes. Nul ne peut servir de maître, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. Voyez-vous, l'inquiétude est à la base de beaucoup de difficultés dans le monde, entre les personnes. L'inquiétude personnelle, en particulier en période de crise, l'inquiétude de l'avenir, inquiétude de travail pour les jeunes, inquiétude de toutes sortes, inquiétude entre les pays pauvres et les pays riches, inquiétude de conflits potentiels, inquiétude de manque d'énergie, l'inquiétude fait partie de la vie. Or Jésus dit, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur quelque chose qui nous est très très familier, l'inquiétude. Or Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il explique pourquoi il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas simplement vous inquiétez pas. Mais il y a une réponse à cette absence d'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Voyez-vous, analogie. Comme les aides. Donc c'est une parabole. Les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Analogie et renvoi vers quelque chose où ça nous montre que nous, on vaut beaucoup mieux qu'un oiseau, et Dieu prend soin de nous. Donc on est déjà au-dessus de cette prise en compte du besoin de base. Qui de vous, verset 27, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? C'est vrai? On y réfléchit, ce n'est pas l'inquiétude qui va nous aider à prolonger notre vie. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Voilà, donc deuxième inquiétude. Premièrement, nourriture. Deuxièmement, le vêtement, pour être vêtu. Et là, l'autre analogie est la suivante. Il dit, observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'avait été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, etc., que mangeront. C'est là que je voudrais m'arrêter, c'est la croissance du lys. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un lys, la fleur de lys, hein? Alors il y a une fleur qui est symbolisée du lys, c'est sur le drapeau royal, la royauté a choisi le lys. Donc il est symbolisé sur tous les drapeaux français, le lys ou doré en général, ou blanc, et qui amène aussi la couleur blanche de la royauté. Donc le lys a été toujours, et c'est vient de la Bible, hein, c'est pas le hasard, parce que la fleur de lys a toujours été cet emblème aussi dans l'Ancien Testament de cette royauté, cette beauté du lys. Et Jésus le reprend. Cette analogie, cette comparaison, pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il ne faut pas s'inquiéter, parce que Dieu prend soin de nous, comme croissent les lys des champs. Donc, vous voyez, il nous renvoie à une réflexion sur l'observation de la nature, et en particulier le lys. Alors, comment est-ce qu'il croit, le lys? Par quoi ça commence? Alors, il n'y a pas que le lys, hein, mais comme Jésus prend le lys, on va rester sur le lys. Hein. Comment est-ce que fonctionne cette parabole? Alors, ça commence par quoi? Bruno. La croissance du lys. Jésus prend le lys. Il dit, regardez le lys. Bon, regardons le lys. Comment est-ce qu'il croit? Alors, commençons au début, Solange. Comment ça commence? La croissance du lys. Comment ça commence? Restons très concrets. Comment ça commence? Oui, une graine. C'est d'abord une graine. De toute façon, tout commence par des graines. Hein. Ma bulle commence par des graines. Hein. Je parle du commencement, hein. Je ne parle pas du début. Du début. Hein. Très simple. Jésus est très simple. Donc commençons par la graine. Il y a une petite graine. Hein. Soit elle est envoyée naturellement par le vent. Hein. Ça existe. Hein. Les lys qui se sèment tout seul. Ou par quelqu'un qui veut le semer. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, cette petite graine dans laquelle il y a la vie? Il faut qu'elle soit plantée. D'accord? Pour qu'elle soit plantée. Première chose, restons très simples. C'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses quand Jésus parle. Il faut rester planté. Pourquoi ? Parce que c'est une application spirituelle, voyez. Si on va trop vite, on ne comprend pas les applications spirituelles. Ça, déjà, il y a une application spirituelle. Il faut être planté. On voit que Jésus reprend ce symbolisme par ailleurs. Donc, le lys, alors, il y a deux manières de l'écrire, hein, L-I-S ou L-Y-S. Bon, peu importe. Elle est plantée dans le sol. Et dans le sol, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un mécanisme habituel, hein, où l'ancienne graine meurt et donne un germe qui vit. Bon, ça, c'est le principe de la résurrection. C'est miraculeux, mais ça, c'est Dieu. Sachez qu'aucun être humain, le plus grand scientifique, n'a jamais créé la vie. Hein, et il ne pourra jamais la créer, parce qu'elle vient de Dieu. Hein. Il peut simplement la modifier et la transformer, la vie. Hein. Donc, voilà, ici... c'est la naissance. Ok ? Il faut naître. D'accord ? Vous voyez tout de suite l'analogie. La naissance spirituelle. Si on n'est pas de nouveau, comme le dit Jésus à Nicodème, rien ne peut se passer. Voyez-vous ? C'est le démarrage de la vie, de la croissance. Ensuite, après, qu'est-ce qui se passe après ? Bon, il y a beaucoup d'étapes, mais prenons une étape intermédiaire du lys. Alors, je vais essayer de vous dessiner le lys, hein, et un peu comme ça, avec un pistil au milieu, voilà. Bon, je ne suis pas très dessinateur, mais... Pardon ? Voilà, donc l'état intermédiaire, c'est ça commence à pousser, et on a des herbes. Hein. Au début, c'est des herbes, hein, on ne sait pas ce que c'est. Hein. C'est des herbes qui poussent, ok ? La croissance passe par toujours le phénomène du feuillage, de l'herbe qui donne une tige, hein, sur laquelle ensuite après va être le fruit. Hein. Et enfin, ben, on va aller très vite, donc on va aller à la fleur. Okay, la fleur de lys. D'accord. Donc on va garder simplement ces trois phases hein, qui pour l'instant suffisent à illustrer le phénomène de la croissance. Hein. Donc, Matthieu 6,8 dit « Observez, regardez. » Voyez-vous ? On regarde, Jésus dit « Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. » Est-ce que la semence ici, est-ce qu'elle fait un travail pour devenir un lys ? La réponse est non, puisque même elle meurt, donc elle ne fait pas de travail. Donc, elle meurt, enfin, telle qu'elle est ici, là il y a la vie, elle meurt. Et ici, elle croît. Donc, elle est en croissance. Croissance par la grâce de Dieu. Vous voyez ? Dieu prend soin de ce lys par le fait qu'elle est arrosée. Dieu utilise aussi des moyens humains pour arroser. Paul dira, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. La croissance vient de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, il y a là, dans cette parabole, l'image d'une coopération entre l'être humain, qui prend soin des choses, c'est un peu aussi l'origine de l'écologie, hein, qui a pris conscience qu'il faut prendre soin de la terre, hein. Si on met des pesticides, ce lys-là, il va crever. Hein. Donc il y a une responsabilité hein, aussi, mais c'est Dieu qui fait croître. Dans tous les cas, l'homme ne peut pas faire. Il peut mettre les conditions de la croissance, mais il ne peut pas faire croître. Donc nous avons là une analogie spirituelle de la croissance du chrétien. Pour devenir un chrétien mûr, puisqu'ici on est à la maturité, hein, la belle fleur, elle est mature, elle est très belle, et elle fait même l'objet effectivement du fameux disons symbole hein, de l'héraldique de la royauté française qui est la fleur de lys. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, on va compléter notre lecture dans 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 1. Et 1 Corinthiens 3. Verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Vous voyez, le comme, c'est à nouveau une analogie. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, il y a parmi nous de la jalousie, de la discorde, etc., les hommes charnels. Et c'est là qu'il dit au verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ou qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Toute la gloire revient toujours à Dieu. Mais il nous utilise comme des instruments. Donc il faut être prêt à être utile entre les mains du Seigneur. Ce qui fait que, si on prend cette analogie, il y a ici, on devient chrétien comment, Charles ? Pardon ? Voilà, acceptant. C'est exactement ce que Louis Palau dit sans ton démarrage. La première décision, c'est décider d'accepter Jésus. La première décision qui conduit le destin d'un être humain, c'est la décision d'accepter Jésus. C'est pour ça que tous les évangélistes, toutes les campagnes d'évangélisation reposent sur la décision. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rester sur la décision, comme on le voit, pour croître. Hein. Et par exemple, il y a un fameux livre, quand on était jeune, qui fait rage, je ne sais plus comment il s'appelle, le surintendant de l'Assemblée de Dieu de l'Argentine ou du Brésil, je ne me rappelle plus, Michel me soufflerait, qui a écrit le fameux livre où il disait tous les dimanches, il envoyait du lait aux chrétiens. Il ne pouvait prendre que du lait. Voilà. Et donc il s'est insurgé un peu contre cet état d'esprit de rester au lait, hein, de rester que des bébés spirituels, que de rester que sur une décision, oui, j'accepte le Seigneur, et puis bon. Il faut que ça commence par là. Donc il faut que l'évangéliste commence par demander, acceptes-tu le Seigneur Jésus dans ta vie, etc., etc. Ok, donc ça c'est la nouvelle naissance. Donc la naissance biologique est, disons, renvoyée à la nouvelle naissance spirituelle du chrétien. Donc là c'est un bébé. Et en grec ça s'appelle un épios. D'accord ? Ça s'appelle un épios. C'est le terme qu'utilise Paul hein, dans ce passage. Comme à des petits-enfants, comme à un épios. Ok ? Il faut commencer par là. Un épios. Ce qu'il faut, c'est pas rester un épios. Enfin, il vaut mieux ne pas rester un épios. On peut, on est sauvé. Hein. La nouvelle naissance, on est sauvé, mais on est un épios. On peut recevoir que du lait spirituel. Mais du lait, des choses simples, on reste sur des choses simples, et le reste du temps, on se bagarre avec tout un tas de choses dans la vie, parce qu'on n'arrive pas avoir la victoire, on est tout le temps frustré, on est tout le temps aigri, on est, enfin, toutes sortes de problèmes, quoi, parce que, en fait, un bébé, regardez les petits bébés, même prématurés, ils avaient la vie, mais il a fallu des soins, il a fallu beaucoup d'attention de Giovanni et puis d'Alexandra, enfin, vous voyez, on comprend cette fraté. Hein. Et un chrétien reste spirituel, népios, il est très très fragile, très très fragile. Le moindre coup de vent, le moindre petit rhume, le moindre petit truc qui passe, hop, il monte, il descend, enfin, vous voyez toute cette image, hein, l'image de la croissance, il ne faut pas rester népios. Hein. Mais on est népios au départ, hein, on est un petit enfant. Et c'est, dans cette analogie, le Seigneur veut qu'on puisse croître. Et le Seigneur fait tout pour nous faire croître. Mais c'est la différence avec le lys, qui lui n'a pas de volonté propre. Nous, on a une volonté propre. C'est ce qui nous distingue de l'être biologique végétal, voire animal, qui a déjà une volonté un peu plus élaborée. Mais nous, on a une très très grande volonté. On peut même élaborer des stratégies. Pourquoi on veut pas hein. Là, on est très fort. Avec notre cortex, pour l'élaborer. Mais tout ça, ça nous freine pour aller au deuxième stade. Et le deuxième stade que Paul utilise, c'est le sarkinoi, qui veut dire quoi ? Sarkinoi, vous ne reconnaissez pas un mot là-dedans ? Pardon ? Oui, charnel. Sarx, c'est charnel, c'est la chair. C'est le chrétien charnel. C'est le chrétien qui, là aussi, dans ce passage-là, est comparé à un adolescent. Hein. Voyez-vous, là, on est bébé, on est ado. Hein. Bon, on commence à s'émanciper, mais ça bouge là-dedans. Hein. C'est pas encore ça, quoi. Hein. Donc, on peut déjà recevoir un peu plus que du lait. Hein, les premières viandes, on peut lui donner, spirituelles, mais ça bagarre là-dedans, hein, ça bouge, ça, c'est pas ça, quoi. Hein. Et ça, c'est quelqu'un qui travaille avec ses propres forces, hein, les propres forces. Alors, je m'adresse, j'ai un bouc émissaire ce matin, c'est Charles. C'est quoi la deuxième décision? C'est celle que Louis. Donc la première décision, gagner, t'as un banco là, t'as un deuxième possible. La deuxième décision qui permet de passer, tac, troisième étape là. Pardon? Voilà, alors le lâcher prise c'est la fusée, donc je reste sur la croissance qui est positive, donc une décision positive. La première décision positive c'est accepter Christ. Et la deuxième décision positive que Louis Palau justement utilise dans son. C'est pour ça que je suis passé à cette analogie, parce que c'est Louis Palau le présente sous cet aspect positif, pas sous l'aspect du lâchage. Pardon ? Se laisser changer ? Oui, oui, oui. Non, c'est tout à fait sur la piste. Pardon ? Voilà, oui, non, vous êtes tout à fait sur cette piste-là. Oui. Oui. Pardon? Alors c'est une décision, enfin peut-être que je relis mes sources, hein, Louis Palau. C'est une décision qu'il a fait dans le deuxième temps, hein, qui a marqué sa destinée en tant que chrétien utile, chrétien. Il a dit que il a pris la décision de servir le Seigneur. C'est une décision de servir, hein, de service. Vous savez, Jésus, regardez l'analogie avec Jésus. Jésus a suivi le même degré de croissance, il était parfaitement homme. Okay, bon, la différence près qu'il était Dieu, il n'a jamais péché. Mais il est né dans l'étable, okay, il était bébé. Pendant un certain temps, il était avec ses parents. Et quand le temps est arrivé où il rentrait dans les eaux du baptême, qu'est-ce qu'il a dû prendre comme décision? De servir Dieu dans la tâche qui lui était confiée. Il est rentré dans le service. Et là, il s'est passé quelque chose dans les eaux du Jourdain où le Père a affirmé l'autorité de son Fils, donc Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Il est rentré dans le service. Il y a un moment donné où il faut décider de rentrer dans le service. Dire, Seigneur, je veux te servir. Et c'est vrai que la contrepartie de l'analogie de la fusée, c'est de lâcher la loi. Rappelez, le deuxième, premier c'est le péché, le deuxième c'est la loi. Et là, il le dit bien, dans cette partie-là, il dit bien les deux, il dit j'ai décidé de servir Dieu, et je me suis séparé de tout ce que je devais abandonner, magazines, disques, livres, objets, rompu toute relation avec un club universitaire dont j'étais membre, j'ai acheté une nouvelle Bible, etc. Ça s'est passé au moment où ses copains, où sa foi s'est affaiblie. Vous voyez, parce que si vous ne passez pas au deuxième stade là, de croissance, ici, c'est comme la fusée, vous allez perdre de la croissance. C'est-à-dire vos premières feuilles vont jaunir, quoi. Vos premières feuilles vont jaunir et vous allez commencer à attraper des maladies. Okay, c'est comme dans la croissance biologique. Et là, Louis Palau disait qu'il s'est attiédi. Sa foi s'est attiédie, hein, pendant je sais pas, 6 ou 7 ans. Il était jeune chrétien et sa foi s'est attiédie. Il avait des bonnes raisons, hein, parce que son père est mort, sa mère est morte, ils ont vécu dans la pauvreté la plus extrême en Argentine. Et donc, il avait de quoi, hein, mais ça explique simplement les choses. Mais ça montre que même dans un cas aussi grave, il a su rebondir. Et quand les copains sont venus le chercher au carnaval, vous savez, le carnaval, hein, en Amérique du Sud, c'est quelque chose. Hein. Et bien là, il a crié au Seigneur, il dit, Seigneur, délivre-moi de ses copains, parce que je sens que c'est une mauvaise pente. Vous voyez, toute sa vie, c'était ses copains. Toute sa vie, c'était ce qu'il s'était créé comme relation avec ce qu'il avait. Eh bien, il a refusé tout cela pour gagner plus. Et vous, c'est à chaque fois un enjeu, c'est un challenge. C'est comme les athlètes, hein. Ils ont la barre à 2 mètres, il faut 2 mètres 10, 2 mètres 20, voilà. C'est un challenge jusqu'à ce qu'ils puissent être retenus pour les Jeux Olympiques. Donc, l'aspect positif, c'est Seigneur, je veux te servir. Est-ce que notre cœur, c'est ça? Est-ce que je veux te servir? C'est ça, ça commence par là, dans notre cœur. Personne ne le sait, simplement nous. Seigneur, je veux te servir. Mais pour te servir, je sais qu'il faut que j'abandonne des choses. Est-ce que je suis prêt à l'abandonner? Oui, pour ce qui me concerne, moi j'aimais le Seigneur, tout jeune, je cherchais à le connaître, mais bon, la religion catholique, on m'expliquait que c'était un Dieu très lointain, donc avec les aumôniers que j'avais quand j'étais au lycée, tout ça, j'avais tout un cahier, j'ai encore le cahier chez moi, on remplissait des feuilles entières du cosmos, enfin de l'univers, c'est extraordinaire, tout ce qu'ils nous ont appris, connaître sur Dieu. Mais c'était un Dieu, vous voyez, des constellations très lointaines et tout ça, on pouvait l'admirer de loin, c'est pas un Dieu personnel. Et je suis allé dans les retraites catholiques et tout ça, parce que je cherchais Dieu. Et en fait, c'est quand je me suis converti, j'ai rencontré le Christ, et là j'ai dû rompre avec ma famille. Rompre parce qu'ils ont tout fait pour me ramener en arrière. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que, pour moi, je reniais ma famille. Je reniais, parce qu'ils étaient bafoués. Hein. Ils étaient à l'époque dans une ville où ma famille était très renommée pour ce qu'elle était, probité, enfin tout. J'en passais des meilleurs. Et moi, leur faire ça, c'était une baffe, une trahison totale. Et donc j'avais un choix. Et ma sœur, elle n'a pas fait le choix. Et parce qu'elle a dit, quand j'ai vu ce que tu vivais, c'était trop dur. Je ne pouvais pas faire ce choix-là. Parce qu'elle a vu les souffrances que ça amenait. Mais moi, j'ai dit non, il faut faire ce choix. Je veux servir le Seigneur, je ne peux pas faire autrement que ce que j'ai découvert, je vais jusqu'au bout. Vous voyez, et c'est une étape. C'est une étape que tous nous sommes amenés à faire. Ou nous la faisons, ou nous ne la faisons pas. C'est tout. Renier les lois de la famille, les lois du milieu, vous voyez, dans la mafia, et des lois du milieu. Si vous reniez, hop, vous pouvez même risquer votre vie si vous êtes dans des confidences ou dans des choses qui mettent en porte-à-faux les autres. Hein? C'est ça, c'est la loi. À quoi nous sommes attachés? À la loi familiale, à la loi du milieu, à la loi de la mode, à la loi, enfin tout ce qui nous donne une certaine vie, si vous voulez, une vie sociale. Hein? Donc là, on est dans la loi raciale, ici, renoncer à la loi raciale. Pourquoi je dis loi raciale, Jean-Claude? Pourquoi j'utilise le mot loi raciale? La première étape, c'est d'abandonner la loi raciale. Quand tu es né dans ce monde, tu faisais partie de quelle race? Pardon? Non, vas-y. Même des réponses idiotes, c'est toujours des réponses qui sont pas bêtes, hein, mais ça oblige à faire tourner le ciboulot, là. Que tu es né dans quelle race? Pardon? Français. Non, c'est une bonne réponse. Français. Et toi, Cathy? Dans quelle race? Français et normand, voilà. Charles, va-t-il trouver, va-t-il pas trouver? Viens. Ah, Nérina. Alors, précise un peu mieux la race, Nérina, puisque Adam. Amen. 20 sur 20. Je renvoie au texte de Corinthiens. La race adamique. Hein? On est né dans la race adamique. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde, dit la parole de Dieu, et ce péché s'est transmis par Adam à toutes les générations. Vous voyez, c'est une loi raciale. Et quand on est de nouveau, on est dans quelle race? C'est facile, pardon? La race? Oui, des justes, de Christ, la race de Christ. Hein? Parce que c'est deux hommes qui ont amené les choses. Hein? Il faut bien voir que la race, c'est d'origine génétique. D'origine spirituelle. Génétique Adam, génétique Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez-vous, quand on fait le choix de la nouvelle naissance, on rentre dans une nouvelle race. Et d'une part, il faut abandonner l'ancienne race et adopter la nouvelle race. Et se comporter comme on doit se comporter dans cette nouvelle race. Il y a des règles, hein, il y a des lois. Dans la race adamique, il y a le péché. Dans la race de Jésus, est-ce qu'il y a le péché? Il y en a qui doutent. Il y en a qui hésitent de dire oui. Heureusement, sinon moi je change de race. Hein. Non, attention là. Moi j'ai pas choisi d'être chrétien pour avoir la même race de péché. Non, c'est la sainteté. Voyez-vous, on a choisi la race de la sainteté. Jésus, il est saint. Dieu, il est saint. Amen. Il faut que ce soit radical, là. Hein. Là, il n'y a pas de juste milieu. Hein. C'est radical. Hein. La race de Jésus-Christ n'a pas de péché. Jésus n'a jamais péché. C'est à cause de ça que son sacrifice a été approuvé. Enfin, c'est toute la théologie de la rédemption. Okay, c'est le nouvel Adam, absolument. Deuxième Adam, nouvel Adam, tout ça, c'est la nouvelle race en Jésus-Christ. Vous voyez, on est rentré dans une nouvelle race. Vous pigez? Vous sentez les enjeux, là? Vous sentez les enjeux? C'est des choix. C'est des choix. La deuxième loi, au deuxième niveau de Sarkodoy, quelle est la loi qui joue là? Quelle est la loi? Il y a une loi là, qui va dans un sens ou dans l'autre. Pareil. Il y a trois lois. Là, on est dans le chemin vers la maturité, la croissance. Dans ce chemin-là, il y a beaucoup de choses, hein, on a vu, mais je rajoute une chose après l'autre pour que vous puissiez suivre. Il y a des lois qu'il faut franchir ou qu'il faut abandonner et d'autres adopter. Donc la première, c'est la loi raciale. On change de race. La deuxième loi, c'est quoi? La deuxième loi. Et elle a les mêmes enjeux que la première étape, mais elle est d'une autre nature, les enjeux. Mais elle est aussi difficile à franchir. Aussi difficile à franchir. Alors, il y a normalement Cathy qui devrait avoir tout de suite la réponse. C'est la loi sociale. La loi sociale. Alors, pourquoi je dis la loi sociale? Pardon? Pourquoi la loi sociale? Pardon? Alors, commence déjà par la naturelle, avant nous. Parce que pour comprendre le spirituel, il faut commencer par le naturel. Naturellement. Est-ce que toi, tu serais Cathy si tu avais vécu toute seule avec ta maman? Hein? Pourquoi? Parce que tu es des apports. Pardon?
On a besoin des autres.
Il l'a dit. On a besoin des autres pour devenir une personne. C'est tout. Observez un peu les gens. Vous pouvez tout de suite savoir de quelle origine ils sont. Alors les Anglais, adressez-vous à Michel, il va vous dire que c'est court. Plus important qu'en France, rien que la manière dont ils prononcent, vous savez exactement d'où ils viennent. Simplement leur manière de parler l'anglais, quoi. Vous savez s'ils viennent du nord de Londres, du sud de Londres, de l'est, de l'ouest, du nord, n'importe. L'accent, il y a un film là-dessus. Enfin bref, c'est une anecdote pour montrer que nous devenons une personne au contact des autres. Bien sûr, au départ, la maman, le papa, mais ensuite, après, il y a les autres. Okay. Donc, cette loi sociale nous détermine, nous conditionne. Hello? Est-ce que la loi sociale humaine, elle est parfaite? David? Ah, toi, t'es bien placé pour le savoir. Hein. Tout ce que tu vois en prison montre que c'est pas parfait. La loi sociale, quelle que soit, même la loi, la race royale, hein, un jour, quelqu'un m'a dit, heureusement, que les rois de France ne sont plus au pouvoir, ou que parce qu'ils sont dégénérés, quoi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Quelqu'un de très bien. Heureusement qu'ils ne gouvernent pas, parce que ça craindrait. Les lois sociales sont soumises au péché, comme la loi raciale, parce que c'est dans la même veine. Alors, quelle est la loi sociale spirituelle, Jérôme? Tu as une idée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan spirituel, là, je parlais de la loi humaine avant la nouvelle naissance et la loi sociale du monde. Okay? Quelle est l'autre loi qui nous sort de cette loi-là, que Louise Palau a fait, pour déterminer son destin? entre autres, c'est la loi du royaume. C'est la loi du royaume de Dieu. Loi sociale, et il y a une loi sociale du royaume de Dieu. Non, vous ne suivez pas là, c'est pas bon là. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a fait que parler du royaume. Okay. Des lois du royaume. Effectivement, tu aimeras ton prochain. Ensuite, après, il a dit de pardonner. À Pierre, il a dit, mais combien de fois on doit pardonner maintenant? 7 fois. Vous voyez, il donne des lois du royaume. Alors, comment se comporter en société? Et je dirais que c'est la loi sociale de l'Église. Voyez-vous? Alors, le problème de l'Église, bien sûr, tout de suite, ça fait frémir tout le monde. J'étais blessé dans l'Église. T'es traumatisé dans l'Église. J'ai des problèmes dans l'Église. J'ai ceci dans l'Église. Ok, so what? Parce que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes comme toi et moi. Okay? Et dès que tu rentres dans cette Église, bah, elle est plus sainte. Hein? Si jamais elle l'était, c'est fini. Et il faut savoir, c'est une réalité. L'Église, elle apporte des heurts parce que... Mais c'est aussi l'occasion de surmonter les épreuves. Si vous êtes heurté dans l'Église... C'est l'occasion, en appliquant les lois du royaume, de monter d'une marche. Et vous allez apprendre quelque chose. En 98, Michel et moi, on a vécu l'enfer dans l'Église. Il y a certains qui le savent. Ça nous a fait vaciller sur nos fondements. Mais à un moment donné, grâce à Dieu, et grâce à des gens qu'il a suscités, dont certains sont ici, on a pu émerger. On a pu émerger. Et on a fait un fondement. On a établi un fondement ici, dans cette église. Et le fondement était le suivant. C'est que pendant près de 2 mois et demi de jeûne et prière, le Seigneur a dit, un dimanche matin, c'était en septembre, tu vas te lever. Je me suis levé. Je dis à toute la congrégation, elle était plus nombreuse que ça. Il dit, aujourd'hui, on va établir un fondement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tous ceux qui veulent suivre, exemple, vous vous levez. Il y en a qui sont levés, très peu. Et on a refondé l'Église. Moi et ma maison. Vous voyez, c'est un choix. C'est un choix de l'Église. C'est un choix de dire, ok, l'Église, Jésus l'a fondée sur des bases. Il a dit à ses disciples, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour ne prévaudront point. L'enfer même ne prévaudra pas. Vous voyez, c'est une question de choix, une question de mentalité, une question de croire ou de ne pas croire les paroles de Jésus. Si je crois ça, eh bien l'Église va mettre une aide, va mettre un support, va mettre une possibilité d'aller plus loin. Sinon, je ne pourrai pas aller à la maturité, voyez-vous, parce que la fleur ne pourra pas se développer si je ne vais pas plus loin. Et vous, l'analogie, elle est parfaite sur le plan spirituel comme sur le plan biologique. Ici, c'est une loi sociale ou du monde ou de l'Église, parce que Jésus a établi une nouvelle société qui est l'Église. L'Église qui comprend les Juifs, hein, c'est-à-dire que les Juifs sont introduits aussi dans l'Église. Hein. Mais Satan va tout faire pour détruire l'Église. Forcément, Jésus a dit les portes du séjour des morts. Vous savez, Satan, il n'aime qu'une chose, c'est défier Dieu. Parce que c'est le plus grand orgueilleux de tout ce qui a existé de toute la création possible. Et quand on lui fait un défi comme ça, je peux vous dire qu'il le prend en mot. Il le prend en mot. C'est 1 million de fois plus qu'Hitler. Okay? Satan, il faut le voir comme un orgueilleux, parce qu'il veut détrôner Dieu. Et quand Jésus a fait des déclarations, je peux dire que Satan, il a rugi, il a dit, celui-là, on va le voir, on va le tuer, on va le détruire. Okay? C'était sa destruction, lui. Mais... Sachez que là, on est à une étape où si de Sarkonoï, on veut devenir un télios, c'est quoi le télios? Alors il y a 2 mots grecs qui sont utilisés par Paul, qui dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. C'est spirituel, c'est le mot spirituel, qui en grec a deux mots, qui est télios ou... Pneumatikos, parce que pneuma, c'est l'esprit. Hein. Spirituel, voilà. Pneuma, c'est le spirituel. Donc télios, c'est un peu plus maturité, ou pneumatikos. C'est-à-dire, c'est le sommet, enfin l'arrivée de, de la gloire de l'homme, de retrouver la gloire. Parce que l'homme, Adam, a perdu sa gloire. Et il a été revêtu de la honte. Adam et Ève ont été revêtus de la honte. Ils se sont cachés. Ils ont eu honte. Vous voyez, quand on est obligé de se cacher, on est dans la honte. Quand on est dans la gloire, on rayonne. Alors, c'est ça que Dieu veut. Il nous a créés pour la gloire, pour être dans la gloire, pour être avec dans la gloire du Seigneur. Et là, c'est le troisième stade, c'est la fleur qui est épanouie, qui ressemble à celle qui se passe sur le plan naturel. Et là, quelles sont les décisions? Alors, je m'adresse à Charles à nouveau. Ah! Allô? Troisième décision, loi raciale, loi sociale, et la troisième loi, enfin, non, attends, excuse-moi, c'est pas cette question-là que je voulais te poser, c'est quelle est la décision qu'il faut prendre pour aller vers le télios? On verra la loi après. Allô? T'as une idée? Ah, c'est une solution. La guérison. Pardon? La connaissance? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça va dans le sens de la connaissance. Alors, quelle est la décision qu'il faut prendre? Si vous rappelez la décision de Louis Palau, ça va vous aider. Alors, c'est un petit scoop, mais ça permet de vous en rappeler. C'est toute la base de Cleansing Stream, cette étape. C'est la base de l'enseignement Cleansing Stream. C'est pour que on puisse vous aider à aller dans le sens du pneumatico, du télios. C'est cette décision que j'attends, si quelqu'un l'a dit. Pardon? Quelle est la décision qu'il faut prendre? C'est des décisions à chaque fois. La décision détermine toujours notre destin. Donc, quelle est la décision? Ah, je vois que Nirina, elle... Vas-y. Oui, alors ça, c'est tout le temps, c'est un principe. C'est un principe. Mais là, il y a une décision fondamentale qui va vous aider à rentrer dans cette étape, dans cette phase, dans cette dimension. C'est marcher par l'esprit. Eh oui. C'est la dimension de l'esprit. C'est marcher par l'esprit. Parce que l'esprit va épanouir la fleur. Vous voyez, elle est prête, hein, le bourgeon est prêt, mais il va épanouir. C'est la puissance de Dieu. Alors, marcher par l'esprit et non par la chair. Et la loi, c'est la sarx, c'est la chair, il faut lâcher. Okay, et prendre la loi de liberté qui est l'esprit. Marcher par l'esprit. Louis Palau, pendant 7 ans, il était dans la deuxième étape là. Et il était là, il était avec des copains de l'église, il était avec des serviteurs de l'église. Et ils ont pleuré ensemble. Ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se débarrasser de certaines choses? Ils voulaient aller plus, vous voyez, parce que c'est des gens qui voulaient aller plus. Si on ne veut pas aller plus, on se contente là, bon, pas de problème. Hein. Mais je pense que vous voulez aller plus, donc je vous apporte ce message pour vous aider à aller plus. Ben, Louis Palau est de cette trempe-là, il voulait aller plus. A dit, Seigneur, non, ils ont pleuré, ils ont dit, mais pourquoi ce péché, on n'arrive pas à s'en séparer? Pourquoi ça va? Pourquoi ça va pas? Ça, c'est les bonnes questions. Mais la réponse qu'il a donnée, c'est que quand il a entendu un message, de 20 minutes, il a dit, ça a changé sa vie. Et c'était quoi la décision? Il dit, Seigneur, maintenant, il y en a marre. Toi, tu vis en moi, ok? J'ai compris que tu vis en moi. Je pense que c'était là le message. Bon, je vais pas, il faudrait que je prenne son bouquin pour le savoir. Mais en gros, il fait allusion à ça. Il a compris que Jésus vit en moi. Si Jésus vit en moi, qu'est-ce que je fais? Je suis responsable. Okay, le sens de la responsabilité, le sens de la décision de dire, Seigneur, je ne peux plus rester comme ça, je ne peux pas te servir comme ça, je suis Christ qui vit en moi, maintenant je veux te suivre. Tu vis en moi, maintenant je prends tes paroles au sérieux, je crois que tu es la puissance, je crois que tu vas vivre en moi, je crois et maintenant je vis sur cette croyance, je vis sur ces déclarations, je vis sur cette affirmation, et c'est ce que les jeunes vont entendre à Faith Camp. Je le sais, parce que Colin Urquhart, c'est de cette trempe-là. Okay, je vis là-dessus. Voyez-vous, c'est une décision. À chaque fois, c'est une décision. Ok ? Vous vous pigez ? Il dit, Jésus est là dans mon cœur. Suis-je ambitieux, plein de pensées impures ? Il vit en moi, il est saint, il me donne sa sainteté. Je veux voir des hommes et des femmes sauvés par la prédication. Il parle au travers de moi, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'était le début d'une nouvelle dimension morale et spirituelle dans ma vie. Voyez-vous, il y a des étapes comme ça. Et ça, c'est la dimension du pneumatikos, des charismes, du charismatique, hein, de la Pentecôte, si vous voulez. Ici, voilà. Et là, on est sur quelle loi ? Une qu'il faut abandonner et une qu'il faut embrayer, je dirais. Hello ? Alors là, il est facile à trouver. Loi raciale, loi sociale et loi... Voilà, alors c'est la loi du monde d'un côté et la loi de l'esprit de l'autre, la loi du royaume de l'autre. Hein. La loi du monde, alors pourquoi je dis le monde ? C'est différent de la loi sociale. Hein. Donc la loi du monde, qu'il faut lâcher, ou la loi du royaume ou de l'esprit. Alors là, il faudra faire une synthèse pour trouver le bon mot, j'ai pas fait ça. L'apôtre Paul parle de la... De rentrer dans la loi de la liberté de l'Esprit de Dieu. Romains 8, 1. La loi de liberté, une véritable liberté. Ce n'est pas la liberté française, là, hein, la liberté, égalité, fraternité, ça. Mais la vraie liberté en Christ. Okay, là, on est libre et là, on est soumis à Christ. D'ailleurs, on est esclave de Christ. Là, on est dans la vraie liberté. Donc, c'est la loi du monde. Alors, je termine avec ça parce que je vois que j'ai dépassé l'heure largement. Je termine juste par le passage qui illustre ça le mieux possible, c'est 1 Jean. Ce passage, je l'ai appris par cœur, mais je vais quand même le lire avec vous. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Qu'est-ce qu'il dit, ce passage ? Quelqu'un là, déjà ? Pardon ? Dis-le plus fort. N'aimez pas le monde. Restons un instant là-dessus. N'aimez pas le monde. Allô ? Vous dit quelque chose ? Vous voyez, abandonnez, n'aimez pas le monde. Est-ce que Jésus est contre le monde ? Non, il a donné sa vie pour le monde. Vous voyez, on est dans les paradoxes, là, on ne peut pas dire que Jésus n'aime pas le monde. Mais il a dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. La loi du monde. N'aimez pas le monde, et je lis la suite, ni ce qui est dans le monde. Voyez-vous, la loi du monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, et il explique, l'amour du Père n'est pas en lui. Là, on est dans l'amour du Père. Là, on est dans l'intimité de Dieu. Là, on rentre dans la trempe de gens comme Moïse, comme David, qui avaient une intimité avec Dieu, qui entendaient sa parole, qui entendaient sa voix, qui pouvaient répondre de ce que Dieu dit. Et là, on a un choix. Aimer le monde ou refuser le monde pour s'attacher vraiment à Dieu de tout son cœur, parce que l'amour du monde est inimitié. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Là, j'aurai tout un passage à vous faire, mais je vais arrêter là. Ensuite, après, développer la prochaine fois l'autre partie, qui est le modèle de connaissance de Dieu, qui dérive du modèle de croissance, mais qui va plus loin. Qui va plus loin, qui est applicable dans chacune de nos vies, et particulièrement dans le couple, que Dieu a prévu pour connaître Dieu et pour glorifier Dieu dans nos vies. C'est à la base de ce que Dieu veut pour un chrétien équilibré. Donc là, c'est pour un chrétien utile, pour un chrétien mature, et pour un chrétien équilibré et puissamment utilisé dans le service de Dieu, et qui puisse être stable et puisse demeurer dans la présence du Seigneur. Un de mes livres que je poursuis, c'est celui-là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez l'acheter, il ne coûte pas grand-chose, vers une nouvelle expérience de Dieu, qui aide aussi à comprendre ces principes, ces notions, qui nous aident à rentrer à la maturité. Et bien sûr, Cleansing Stream, qui sera la base de tout l'enseignement pour marcher dans l'esprit. Schwartz, oui. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre ces paraboles que tu utilisais, en particulier celle de la croissance du lys. Regardez les lys, comment ils croissent. Et Seigneur, que nous puissions nous-mêmes nous conformer à cette attitude spirituelle que tu demandes de notre part, qui va plus loin que les plantes, parce que nous avons une volonté où notre décision doit s'aligner avec le plan que tu as prévu pour nous. Alors Seigneur, merci de nous aider à bien comprendre cela et à le mettre en pratique. Peut-être durant ces vacances, nous avons plus de temps de méditer ta parole. Que Seigneur, ce soit pour nous l'occasion de faire une étape de plus vers toi et dans la maturité, Père. Te prions au nom de Jésus. Amen.